Bonjour à chacun d'entre vous ce matin. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un privilège pour moi, depuis quelques années, de prêcher lors de notre lancement de Libération 21. Et encore une fois, je pense que c'est un bon temps dans la vie de l'Église où on décide ensemble de s'arrêter pendant 21 jours et de dire on veut prier Dieu, on veut demander à Dieu de faire un réveil dans nos vies, de faire un réveil autour de nous. Et non, on n'est pas en train de dire que c'est seulement 21 jours par année qu'on prie et que la prière n'est pas importante le reste du temps. Au contraire, on veut pouvoir dire à quel point on croit que c'est important de s'arrêter pendant 21 jours pour mettre l'emphase sur la prière et certainement prier que notre vie de prière, notre vie, notre relation avec Dieu puisse grandir et avoir un impact pour le restant de notre année, de nos vies. Donc, juste quelques informations pour Libération 21, quelques activités qu'on va avoir. On en a déjà parlé de quelques-unes ce matin. Pour toute l'information, vous pouvez aller sur notre page web. En tout temps, on a une page dédiée à Libération 21 où il y a des ressources. À chaque jour, il va y avoir une méditation journalière qui va apparaître sur le site Internet. Donc, vous pouvez prendre un temps avec Dieu avec cette méditation-là. Donc, ça, c'est à chaque jour, on va avoir ça. Aussi, vous avez vu la semaine passée, on vous a parlé des bracelets. Les bracelets, c'est comme notre engagement pour dire on fait ça ensemble, en famille. Tout le monde, on a notre bracelet, on est une équipe, on est une famille ensemble qui va s'engager à prier pendant ces 21 jours-là. Donc, on en a de différentes grandeurs. On vous encourage à en prendre un pour dire, moi, je veux m'encourager dans ce mouvement de prière. Je veux prier que Dieu fasse un réveil dans ma vie, dans notre église. Et je t'encourage à prendre un bracelet. Puis la semaine passée, on vous a dit écrivez votre nom, mais il n'y avait pas de craie. Donc, vous pouvez retourner écrire votre nom. Il y a des craies maintenant. Puis sinon, vous pouvez écrire votre nom sur le tableau juste pour qu'on puisse avoir un visuel de toutes les personnes qui s'engagent dans le mouvement de prière. Aussi, comme à chaque année, dimanche prochain, on va débuter ce qu'on appelle le cadran de prière. Donc, dimanche prochain, pour une semaine, on aimerait ça qu'il y ait au moins une personne qui prie à toutes les minutes de la journée. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'aller inscrire votre nom dans le cadran de prière qui est au kiosque. C'est 15 minutes de prière par jour. Et si chaque personne choisissait un 15 minutes, peut-être qu'on va pouvoir remplir ce cadran-là et dire qu'à chaque minute de la journée, il va y avoir quelqu'un à l'église qui est en train de prier, de prendre un temps de prière. Donc, oui, de la journée et de la nuit. Donc, on essaie de remplir le cadran au complet. S'il y en a qui, je sais qu'il y en a qui, à chaque année, c'est comme un peu leur défi de dire, hey, moi, je vais me lever 15 minutes pendant la nuit. Et dire je veux participer de cette manière-là, mais sentez-vous libre de mettre votre nom n'importe où dans le cadran de prière. Aussi, une nouveauté cette année, on avait eu envie qu'à chaque lundi matin, à 6 heures le matin, il va y avoir des gens qui vont venir ici pour prier avant d'aller au travail, avant de commencer la journée, ceux qui sont capables de le faire. On vous invite, il va y avoir, ben moi je vais être là, je vais animer la prière, une heure de prière. Le lundi matin. Donc, demain matin, on va être là pour prier. Et puis, le vendredi midi, pour ceux qui sont au travail, cette semaine, on va envoyer un lien par Grandir Ensemble, puis il va même avoir un temps de prière. On fait ça, le conseil, ensemble la semaine, et c'est vraiment le fun. On va prier ensemble par Internet. Donc, ceux qui sont au travail peuvent être devant l'ordinateur, prendre un temps de prière. On va vous envoyer le lien pour ça cette semaine. Donc, beaucoup de belles activités. On va mettre l'emphase sur la prière. On a parlé des groupes maison tantôt. Et ce qu'on veut faire pendant Libération 21 cette année, le thème, c'est être en mission avec Dieu. Et quand on pense à la mission, souvent, quand on pense à la mission de Dieu, la mission que Dieu nous donne, ce que Dieu nous demande de faire pour être en mission, souvent, c'est on peut penser à plein de choses qui sont hors de notre zone de confort. On pense certainement à l'évangélisation, puis comment on est bon ou pas bon pour le faire, comment est-ce qu'on le fait assez ou pas assez. On pense à toutes ces choses-là. Souvent, on pense à inconfort. Et comme Norman nous a dit la semaine passée, en introduisant le sujet, souvent, on pense à la mission et on a peur. On a peur et la raison pour laquelle on a peur souvent, c'est parce qu'on oublie notre identité, on oublie qui on est en Jésus. On oublie justement notre identité et c'est ce qu'on veut faire justement pendant Libération 21, se rappeler qui on est en Jésus, se rappeler notre identité. On a besoin de se rappeler de notre fondement. On veut prendre un temps à dire, oui, je veux être en mission. Oui, je veux avoir à cœur la mission que Dieu a. Mais premièrement, on doit revenir à notre fondement. On doit revenir à notre identité. Et les trois identités qu'on va regarder dans les trois prochaines semaines, c'est notre identité de famille, de serviteur et de missionnaire. Et aujourd'hui, évidemment, on va regarder notre identité de famille. Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à venir avec moi dans 1 Jean, au chapitre 4. Les versets 7 à 11. Juste avant de lire, si vous permettez, je vais prier. Seigneur Jésus, on te demande ce matin de nous accompagner, d'être avec nous, de parler à nos cœurs par l'enseignement de ta parole, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous fortifier, nous encourager, qu'on puisse pas voir ta mission comme quelque chose de lourd, déconnecté de la vie que tu nous as donnée, mais au contraire, qu'on puisse être encouragé, motivé par une vie qui a été transformé par toi, Seigneur, et que ce matin, par ta parole, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous rallier en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, à désirer être en mission avec toi. C'est notre prière, c'est notre désir pour les prochaines semaines, Seigneur. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, lisons ensemble 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quel beau passage qu'on va regarder ce matin. Mais tout d'abord, ce qui est rassurant, c'est que quand on lit la lettre de 1 Jean dans au complet, quand on lit cette lettre, on se rend compte que ce que Jean fait en écrivant cette lettre, il cherche à rassurer les croyants. Il cherche d'abord à les rassurer. Dans le contexte de la lettre, il y a plein de faux enseignements qui viennent mélanger tout le monde. Il y a des gens qui mettent en doute l'identité des croyants. Et là, les croyants se posent la question, bien, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Et ça peut être des gens qui sont chrétiens depuis quelques années, mais on se posait ces questions-là. On avait des doutes. On mettait en doute leur statut, leur croyance. Et les gens étaient inquiets. Qu'est-ce qui fait de nous un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien? Donc, Jean va passer une bonne partie de sa lettre pour leur dire ce qui fait d'eux des enfants de Dieu. Voici le témoignage, voici ce qui témoigne du fait que vous êtes des enfants de Dieu. Il les connaît et il veut les rassurer. Le message que Jean il va enseigner, qu'il nous enseigne ce matin, peut sembler si élémentaire à la fois. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? On apprend ça dans les cours 101 des premières fois que je viens à l'église où j'apprends c'est quoi un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il veut faire. C'est plus qu'élémentaire, mais c'est que nous avons constamment besoin de revenir à la source, au fondement, et nous rappeler qui nous sommes. On a constamment besoin de se rappeler qu'on est des enfants de Dieu. Et on va voir pourquoi ce matin. C'est plus qu'un message élémentaire, quelque chose que tu as besoin de savoir quand tu deviens un chrétien. Voici c'est quoi un chrétien, les 3-4 points d'un chrétien. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on a besoin de se rappeler constamment en tant que croyant. Parce qu'on va le voir ce matin et on le sait avec nos vies, qu'il y a plein de situations qui viennent constamment remettre en doute cette identité que Dieu nous donne. Et ce que Jean est en train de dire dans ce passage, c'est que la démonstration que nous sommes des enfants de Dieu est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce que justement, c'est un témoignage que nous avons connu l'amour, car Dieu est amour. Évidemment, ce passage, il ne dit pas que tous ceux qui sont capables d'aimer ont connu Dieu, ou que seulement les enfants de Dieu sont capables d'aimer. Ce n'est pas ce que le passage nous dit. Mais on apprend ici ce matin qu'on reconnaît qu'on est des enfants de Dieu par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais ce qu'on va voir ce matin, et ce qu'on doit prendre un temps et s'arrêter pour considérer qu'on peut aimer seulement parce qu'on a été aimé. Le fondement de notre amour les uns pour les autres, c'est Dieu. On le sait, Dieu est amour. Et le passage le dit, Dieu est amour. Et son amour est démontré par le plus grand acte d'amour qu'il est possible d'imaginer. Quand il a donné son Fils unique. Et quand la parole nous dit que Dieu a donné son Fils unique, en d'autres mots, la Bible nous rappelle que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pour que nous puissions avoir une relation avec lui. À la quoi Dieu rend possible à nouveau que nous puissions avoir une relation avec lui. Qu'on puisse vivre comme il nous a créés. À la croix, Dieu le Père a fait de toi son enfant. Mais comme les croyants de cette époque, l'époque où Jean a écrit cette lettre, bien souvent, chacun d'entre nous, on doute. On doute de notre statut devant Dieu. On doute de son amour pour nous. Parfois, on doute qu'il est là. On doute que Dieu est suffisant. On doute qu'il nous accompagne. Et on se pose des questions. Suis-je réellement son enfant? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et dans le doute, on a l'impression qu'on goûte de moins en moins et qu'on a la difficulté à goûter à son amour. Puis dans le doute, bien souvent, dans la difficulté, mais même juste naturellement en tant qu'être humain, on va poursuivre, on va chercher à être aimé, la source de notre amour, à plein d'endroits. Ça peut être l'approbation des autres, ça peut être notre statut social, le plaisir. Toutes des bonnes choses qui pourront jamais nous donner ce que Dieu, dans son amour, nous a donné à la croix. La vie, l'espérance et une perspective nouvelle dans les souffrances de la vie. Le psaume 94, 18 nous dit, « Quand j'ai dit, je vais perdre pied dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. » Dieu nous promet dans son amour qu'il va constamment nous soutenir, qu'il va constamment prendre soin de nous. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou non, mais ce matin, je voulais justement vous en parler de parole proclamée de notre frère Étienne Saint-Louis qui a commencé un nouveau ministère pour proclamer l'Évangile sur les réseaux sociaux. Et on peut voir sur sa page Facebook, il y a des vidéos qui sont là, des encouragements sur l'Évangile qui sont vraiment intéressants. Donc, je vous encourage à aller aimer cette page-là, parole proclamée. Beaucoup de bonnes réflexions, d'encouragements que vous pouvez avoir sur votre feed Facebook dans la journée. Puis cette semaine, il y avait justement une citation qui disait par rapport au psaume 94, « L'amour parfait ne vient pas de moi ni de ceux qui m'entourent, mais d'une source inépuisable, intarissable, qui ne peut me trahir, qui ne peut nous abandonner. » Dieu à la croix, quand il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous, quand que Dieu s'est fait notre Père et on est devenus ses enfants, l'amour de Dieu, dans son amour, nous promet qu'il ne va jamais nous laisser tomber, jamais nous abandonner, qu'il est là avec nous, qu'il est là pour nous. Dieu est présent et Dieu ne peut pas nous abandonner. Alors que toutes les autres sources d'amour dans lesquelles qu'on peut chercher, ne sont pas capables de garder cette promesse que Dieu garde de nous tenir et de nous garder. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de retourner à l'amour de Dieu? Cet amour qu'on a expérimenté lorsque nous avons cru que Jésus était mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous. Pourquoi est-ce que j'ai constamment besoin de me le rappeler, de me rappeler que Dieu m'aime? Pourquoi est-ce que ces croyants dans 1 Jean, justement, qui sont là, puis que c'est l'outil que Jean prend pour renforcer leur identité, leur rappeler qui ils sont, il leur rappelle que Dieu est amour, que Dieu les aime. On a besoin de se le rappeler parce qu'il est très humain de croire que son amour pour nous n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Parce que c'est très humain de croire un mensonge qu'on peut trouver son amour ailleurs. Mais aussi parce que c'est très humain de croire qu'on n'est pas assez aimable pour être aimé par ce Dieu-là. Ça peut être pour plein de raisons, notre honte, notre culpabilité. Cette semaine, j'ai eu une semaine assez spéciale en tant que père. Pour la première fois de notre jeune vie de parents et de nos enfants qui vont à l'école, on a eu des communiqués d'un de mes enfants qui avait mal agi envers d'autres élèves. Fait que là, c'est comme, OK, nous, on n'était pas là, on ne sait pas, puis on pose des questions à notre enfant, c'est nous ce qui est arrivé, puis il ne voulait pas nous dire ce qui est arrivé, il ne parlait pas, c'était comme... Puis je voyais, à un moment donné, je parlais avec, puis j'ai dit, papa, il t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Oui, on voit que tu as honte d'avoir fait le mal, et c'est bien que ta honte te pousse à réaliser que tu as fait le mal, mais papa, il t'aime, tu as le droit de me parler, je ne vais pas moins t'aimer, je ne vais pas... C'est sûr qu'il avait peur de la conséquence, évidemment. Mais on essaie de parler avec lui, de l'accompagner à réaliser qu'est-ce qu'il avait fait, est-ce que c'était bien, qu'est-ce que tu avais fait à ton ami. Mais je voyais que ce qui l'empêchait de venir à nous, c'était la honte, c'était un manque. Il se sentait pas assez aimable à ce moment-là. Il pouvait pas le dire comme ça, mais en parlant avec lui à la fin, c'est comme, là il commence, il voit qu'il commence à parler avec nous, il s'ouvrait un petit peu plus. Parce qu'il voyait que malgré qu'il s'ouvrait, on était encore là, puis on continuait à l'accompagner. Puis oui, il faut que tu assumes les conséquences qui viennent avec, mais on est là, puis on t'accompagne là-dedans. Mais ce qui me frappait, puis à ce moment-là, un peu que je trouvais difficile, c'était bien, si tu me parles, je peux t'aider, je peux t'aimer, je peux prendre soin de toi, mais toi, tu n'es pas capable de venir à moi. Tu n'es pas capable de t'ouvrir à cause de sa honte, à cause qu'il se sentait coupable. Et c'est la même chose qu'on fait souvent avec Dieu. Dieu nous fait ses promesses d'amour. Dieu nous promet qu'il nous aime. Dieu nous a fait la démonstration d'amour la plus grande à la croix, celle qu'on a le plus besoin. Mais bien souvent, nos vies nous empêchent d'aller à Dieu parce qu'on ne se sent pas aimable. Notre honte nous empêche d'aller à lui parce qu'on pense qu'il ne peut pas couvrir cette honte. Souvent, on a de la difficulté à goûter à son amour parce qu'on pense qu'on doit le mériter. Je dois en faire plus. On parle d'être en mission avec Dieu, puis peut-être que ce matin, la première réflexion qui vient, c'est comme, « Ah, je ne parle pas assez à lui. Je ne suis pas assez un bon témoignage à mon travail. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Dieu m'aimerait plus si j'en faisais plus. » On a de la difficulté à goûter à son amour parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien pour lui. On a de la difficulté à goûter à son amour parce que peut-être parce que personne ne nous a jamais aimés ou on ne s'est jamais vraiment senti aimé par personne. On a été déçus par nos relations et là, de penser à une relation d'amour avec un père, c'est vraiment difficile. Mais ce qui est la bonne nouvelle ce matin, qu'on lit dans ce passage, ce qui est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, peu importe où on se situe dans ce qui vient d'être mentionné, peu importe où ce qu'on se voit par rapport à Dieu, la bonne nouvelle, c'est que l'amour ne consiste pas dans le fait que je suis capable d'aimer Dieu, dans le fait que je puisse gagner son approbation, mais dans le fait que Dieu m'a aimé le premier. C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui est venu nous chercher, qui est venu nous déverser son amour malgré toutes ces choses-là, malgré tout ce qu'on est. C'est son initiative. C'est lui qui veut que nous soyons ses enfants. On n'a pas ce mérite-là, mais il nous aime. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin de savoir que tu es aimé par le Dieu de l'univers. Que tu as cette occasion-là de goûter à l'amour de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Puis ça, c'est la vérité qui nous rend capable d'aimer, de l'aimer lui, puis d'aimer les autres. Mais j'ai constamment besoin de me rappeler que j'ai été aimé, sauvé de mes brisures, de mes manquements, de ma rébellion contre Dieu. Et de mon manque d'amour envers les autres et mon manque d'amour quotidien envers les autres. Mais je suis puissamment aimé par le Dieu qui est amour, qui m'a aimé en me donnant ce qu'il avait de plus précieux. Et il a fait de moi son enfant bien-aimé. Et en Jésus, si tu as mis ta confiance en lui, c'est qui tu es ce matin. Tu n'es pas tous les mensonges que tu te crois, que tu crois. Tu n'es pas les mensonges qu'on t'a dit. Tu es un enfant de Dieu, aimé par Dieu, et tu ne seras jamais abandonné. Et si tu es son enfant, c'est que tu as goûté à cet amour profond de Dieu. L'amour le plus puissant et le plus profond qu'on puisse vivre, c'est l'amour de Dieu, et il veut qu'on continue à écouter aujourd'hui. Et on a ce rappel ce matin-là qu'on a goûté à cet amour. On est ses enfants. Et on voit ça par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Dieu est un Dieu relationnel. Il veut une relation avec nous. Et l'amour qu'il nous donne nous pousse à avoir des relations avec les autres. Mais la bonne nouvelle, quelque chose qu'on a répété souvent dernièrement entre amis, c'est que Dieu nous donne ce qu'il leur donne. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, mais Dieu nous a donné son amour. Une citation que j'ai lue dernièrement, certains l'attribuent à John Bunyan qui écrit « Le voyage du pèlerin », d'autres non, mais ce n'est pas grave, la citation est excellente quand même. Mais ça dit « La loi nous commande de courir et de travailler, mais elle ne nous donne ni main ni pied. » L'Évangile, par contre, nous ordonne de voler et elle nous donne des ailes. Voici ce que Dieu fait. Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne. Les commandements de Dieu, les demandes de Dieu sont enveloppés de sa grâce, de son amour et de sa puissance. En d'autres mots, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin pour aimer les autres. Comme Norman nous l'a répété la semaine passée, ce que Dieu fait en nous, en déversant cet amour, ce que Dieu fait en nous, il veut le faire au travers de nous. Ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Donc, quand nous avons l'assurance de l'amour du Père et que nous réalisons à quel point il nous a aimés, nous sommes alors libres d'aimer les autres et nous savons comment le faire. Mais comment le faire? Si Dieu le Père nous a aimés comme un Père, et c'est ce qu'on a vu la semaine passée, et que nous sommes ses enfants, nous sommes une famille. Nous aimons les autres parce qu'ils nous aiment, nous aimons les autres comme ils nous aiment, et nous aimons les autres comme une famille. C'est l'amour que Dieu a déversé en nous, l'amour d'un Père, un amour familial. Et on le voit dans 1 Jean, tout le long qu'on lit 1 Jean, c'est... On voit ce langage de Dieu, notre Père, nous qui sommes ses enfants. Même Jean qui parle à ces gens-là, probablement que il parle à ses petits-enfants, des gens peut-être qui ont établi dans la foi, à qui il a amené l'Évangile, il parle d'eux comme ses petits-enfants. On voit ce langage de famille parce que l'Évangile a cet impact relationnel de faire de nous, les enfants, la famille de Dieu. Et c'est une bonne question, des bonnes questions qu'on peut se poser très pratiques ce matin. À quoi ça ressemblerait si on aimait les membres de notre église, de notre groupe connexion, de notre groupe maison, comme une famille? À quoi ça ressemblerait si on aimait nos voisins comme étant des membres de notre famille? Parce que oui, le passage ici qu'on est en train de lire, qu'on regarde ce matin dans 1 Jean, c'est certainement un passage qui s'adresse à des croyants et il parle des relations dans l'Église. Mais ce que Jean nous dit aussi, c'est que l'amour que Dieu vous donne, c'est comme ça que vous apprenez à aimer les autres. Et ce qu'on veut comprendre quand on parle d'aimer nos voisins, d'aimer nos collègues de travail, comme la famille de Dieu, c'est que le monde va expérimenter l'amour du Père seulement si nous sommes prêts à les aimer de cette façon, comme des frères et des sœurs. Si on est prêt à s'investir dans la vie des uns des autres, des gens qui nous entourent autour de nous. C'est dans ce contexte familial que nous sommes formés en tant que disciples et que nous formons des gens comme disciples de Jésus. Dans nos relations les uns envers les autres, quand on laisse les autres entrer dans nos vies, bien, ils vont voir comment notre couple fonctionne. Ils vont voir nos réactions lorsqu'on fait un projet. Ils vont voir comment on élève nos enfants. Puis c'est dans ces relations-là qu'on peut les uns les autres s'encourager, grandir ensemble, se reprendre et ressembler à Jésus de plus en plus et démontrer l'amour de Dieu aux autres. On peut s'aimer, se reprendre, s'encourager, s'aider à grandir dans l'amour de Dieu dans ces contextes. Être une famille, c'est quoi? C'est prendre du temps ensemble les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est être en mission avec Dieu en tant que famille, c'est de prendre des moments de notre vie qu'on partage et qu'on veut le partager avec d'autres. Un de mes moments préférés, pour plusieurs raisons, c'est quand on mange. Mais quand on mange avec d'autres personnes, quand on invite des personnes à manger, moi, je suis une personne un petit peu gênée de rentrer en relation avec les gens. Des fois, je me pose qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas quoi dire, est-ce que je dérange, on se pose plein de questions. Mais il me semble que quand on invite les gens à manger, qu'on partage un repas, on est pris ensemble pendant 2 heures. À un moment donné, on apprend à connaître les gens. Combien de repas j'ai pris avec des gens et où on apprend à se connaître ou est-ce qu'on prend soin les uns des autres autour d'un repas? Quel bon temps pour remercier Dieu pour sa providence de nous donner du manger, mais de nous donner des relations puis de partager ça avec des gens que Dieu nous met à cœur d'aimer. Voici une façon qu'on peut aimer les autres. On peut être une famille qui, en s'amusant ensemble. L'été passé, quand on a fait Jibet cadeau avec les adolescents, on est parti à Saint-Georges-de-Beauce, puis je me souviens que quand on est arrivé au terrain de soccer, personne ne se connaissait, on a joué ensemble, et puis là, après 1 heure, tout le monde était des amis. Et moi, je trouve que prendre du temps pour s'amuser, de prendre du temps pour relaxer ensemble, apprendre à se connaître de façon informelle, quelle façon de découvrir, apprendre à connaître les autres, devenir une famille et juste devenir des amis. Et aussi, souvent dans ces temps-là, on apprend à voir le vrai caractère de chaque personne. Parce qu'une de ces fois-là qu'on est allé jouer au soccer, j'avais reçu un coup sur la jambe. Et là, j'étais le leader de plein d'ados. Puis il y a plein d'ados qui ont vu à quel point je peux être comme... Je me suis juste emporté, je suis parti, j'étais fâché, j'avais plein de pas belles pensées dans ma tête, mais j'ai été obligé après de me prendre un temps avec les gens qui étaient là pour juste faire un retour sur la situation. J'ai demandé à la personne d'être un petit peu moins rough avec moi, mais après, à part de ça. Mais pour vrai, il y avait plein de choses dans mon cœur, puis j'ai voulu exposer ça aux autres, de voir, regarder comment je ne suis pas parfait, comment j'ai besoin justement de l'amour de Dieu, en ce moment, j'ai besoin de votre pardon parce que je n'ai pas pensé des bonnes choses. Donc, c'est des occasions souvent dans des temps très, très informels de grandir ensemble et d'apprendre à se connaître et de ressembler à Jésus de plus en plus. Être une famille, c'est se pardonner. Et le pardon, le besoin de pardon, le besoin de notre manque d'amour envers les autres, les conflits, nos jugements, tout ce qui nous amène à devoir demander pardon, ou avoir besoin de demander pardon, c'est constamment un rappel c'est le meilleur rappel qu'on a besoin de se rappeler à quel point on a été aimé. Parce que quand je manque d'amour envers les autres, c'est toujours un miroir qui me montre, regarde, rappelle-toi comment tu as été aimé par Jésus. Rappelle-toi comment tu as été pardonné par Jésus. C'est peut-être très grave qu'est-ce que cette personne-là t'a fait. Mais Jésus est mort à la croix pour te pardonner de toute ta rébellion, de tous tes péchés, de tout le mal que tu allais faire, tout ce que tu allais faire de grave envers les autres. Quand je réalise à quel point j'ai été aimé par Dieu, c'est alors que je peux pardonner. je peux aimer. Mais souvent, justement, c'est une bonne occasion pour nous rappeler. OK, là, j'ai besoin de grandir ou de me rappeler l'amour de Dieu parce que je manque d'amour envers mon frère, ma soeur, quelqu'un dans ma vie. Plein de choses qu'on peut faire en famille. La famille, c'est un endroit où est-ce qu'on peut s'écouter les uns les autres pour prendre soin des autres. C'est un lieu d'appartenance, de sécurité. On peut aimer parce qu'on a été aimé. On peut aimer parce qu'on a été aimé. Et un pasteur et auteur que j'aime beaucoup lire raconte souvent cette histoire. Le nom du pasteur, c'est Jeff, et quand il raconte souvent cette histoire de quand il est arrivé dans son quartier. Sa voisine, Nikki, c'est une femme qui a tout de suite, lui et sa famille, ont voulu aimer. Mais Nikki, c'est une femme qui avait eu des relations difficiles dans sa vie. Un père qui avait manqué d'amour, qui n'avait pas été présent pour elle. Un premier mariage qui avait été très difficile. Et un deuxième mariage qui allait super bien, avec qui elle se sentait aimée, mais son mari était décédé. Une femme qui était vraiment brûlée par la vie, qui était plus capable de se donner relationnellement, d'être aimée, d'aimer d'autres personnes. Elle voulait rien savoir des gens autour d'elle. Et la maison qu'elle avait eue avec son deuxième mari avait commencé à être comme pas mal laissée aller. Il y avait des gros buissons qui avaient poussé dans sa cour. La maison avait besoin de réparation. Il y avait deux voitures en dessous des buissons dans la cour. Et Jeff se disait, il essayait toujours de vouloir, lui et sa famille, vouloir aller aider. On veut aider Nikki. Fait que des fois, il coupait le gazon devant son terrain, il allait le faire chez Nikki. Nikki ne voulait rien savoir de plus que ça. Puis il s'essayait. Puis à un moment donné, lui et sa femme étaient frustrés. Puis on dit, ben là, on a tout fait pour essayer de l'aimer, puis elle ne veut rien savoir. On laisse faire. Puis il témoigne, il dit, c'est à ce moment-là que les deux, on a eu comme cette conviction. C'est comme si Dieu, il dit, l'Esprit de Dieu nous a parlé tous les deux, nous disant, j'avais hâte que vous arrêtiez de la traiter comme un projet et que vous me laissiez faire mon travail. Ce n'est pas votre devoir de la changer. Votre devoir, c'est de l'aimer. Aimez-la. N'essayez pas de la changer. Puis j'ai entendu l'Esprit me demander si elle était dans ma famille. Comment est-ce que tu l'aimerais? Si c'était ta mère, comment est-ce que tu l'aimerais? Ce n'est pas une bonne question pour les gens autour de nous, n'est-ce pas? À un moment donné, juste comme ça, la voiture de Nikki était brisée, puis là, elle avait des douleurs à la poitrine, puis elle avait besoin d'aller à l'hôpital, puis elle avait peur de prendre l'ambulance. Fait qu'elle est allée où? Elle est allée cogner chez Jeff et sa famille. Puis elle a dit, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'ai besoin d'aide. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, la famille, Jeff, sa famille, puis les croyants avec qui il était, qui formaient un petit groupe ensemble, ils se disaient, comment est-ce qu'on peut aimer Nikki comme un membre de notre famille? Mais si c'était un membre de notre famille qui était à l'hôpital, on irait la visiter. Peut-être qu'on apporterait des repas. Alors, le groupe s'est relié, commençait à faire des visites. Et là, la voiture de Nikki était brisée, alors ils voulaient réparer la voiture de Nikki, mais Nikki ne voulait rien savoir. Mais elle a commencé à demander si elle pouvait emprunter l'auto de Jeff. Et à un moment donné, Jeff, après l'avoir prêté à quelques occasions, il a dit, je vais te prêter la voiture si tu me donnes tes clés. Fait qu'il a donné ses clés, puis là, il est allé réparer sa voiture avec. Et tout le groupe s'est mis ensemble pour réparer la voiture. La famille de Jeff avait ce désir de pouvoir aimer cette femme comme si c'était une membre de leur famille. L'idée ici, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Nikki. Est-ce qu'elle est devenue chrétienne? Est-ce que ça a marché, cette tactique-là de mission? Mais c'est de voir que quand on est des enfants de Dieu, aimés par Dieu, Dieu nous demande simplement de nous aimer les uns les autres et de démontrer cet amour-là au monde entier. Les résultats, ce qui va arriver, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu fait son travail, Dieu fait sa mission. Il nous demande de l'accompagner. Mais ce qui est vrai pour Nikki, c'est qu'elle a expérimenté la grâce de Dieu avant de l'entendre. Elle a goûté à l'amour de Dieu par la famille de Dieu. Et c'est certainement des questions C'est une histoire qui est puissante pour nous rappeler, nous aider à voir à quel point ce que Dieu a fait en nous, il veut le faire à travers nous. Ce que Dieu nous donne, le fondement de notre identité, qu'on est des enfants dans sa famille, a un impact dans nos relations, dans notre vie. Et l'idée, ce n'est pas de dire, bien, les 500 personnes qui sont dans mon église, je vais les traiter comme ça, comme ma famille, ou tous les gens dans mon quartier, ou tous les gens partout, puis là, on va comme capoter. Puis... Non, répondons à l'appel de Dieu dans notre vie. Commençons par lui demander, Dieu, qui est-ce que tu veux qu'il soit ma famille? Auprès de qui tu veux que je m'implique comme ça? Qui est-ce que tu veux que j'aime? Et si c'est ce désir-là d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur, d'aimer ton prochain, demande-le à Dieu. Mais tout d'abord, ce matin, on veut se demander, est-ce que je goûte à l'amour de Dieu? Est-ce que mon premier point ce matin, avant de me demander la question, qui est-ce que Dieu veut que j'aime comme un membre de ma famille, ou comment Dieu veut que j'aime mon groupe connexion ou mon groupe maison comme faisant partie de ma famille? Avant que je me demande, bien, c'est qui dans mon quartier ou à mon travail que Dieu veut que j'aime comme un membre de ma famille? Est-ce que tu goûtes à l'amour de Dieu? Est-ce que tu reviens à ce fondement, à cette identité? Est-ce que tu te rappelles que tu es aimé par Dieu? Qu'il t'aime malgré qui tu es? Parce que l'amour consiste en ce que Dieu nous a aimé le premier. Et c'est quand on saisit cet amour et quand on se rappelle cet amour qu'on peut se rappeler qu'on est capable de s'aimer les uns les autres et de démontrer cet amour au monde. Alors, as-tu goûté à l'amour de Dieu? Qui est ta famille? Qui est-ce que Dieu veut que tu aimes comme une famille? Et juste vous dire que dans les trois prochaines semaines, c'est ce genre de questions-là assez pratiques qu'on va se poser dans les groupes connexion, dans les trois groupes connexion. Donc, on vous invite à venir si ça vous intéresse. Mais posons-nous ces questions pendant Libération 21. Mettons ça devant Dieu. Laissons Dieu venir devant nous. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous transformer et nous révéler ce qu'il veut nous révéler pour chacun d'entre nous. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour... ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Et oui, Seigneur, on veut te remercier pour ton amour. On veut te remercier pour ton amour que tu as puissamment manifesté à la croix en envoyant ton Fils unique mourir pour nous. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est être une église qui aime. Une église qui aime comme elle a été aimée. Chacun d'entre nous. Travaille en nous comme on a besoin ce matin. Révèle à nos cœurs ce qu'on a besoin d'entendre. Et fais ton travail en nous, Seigneur, qu'on puisse être encouragé, fortifié, qu'on puisse goûter à ton amour et aimer nos frères et nos sœurs. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.